These are the times that try men's souls. In the course of our nation's history, the people of rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.
Eh bien, bienvenue dans un déo et débat sur la radio Béton spécial Nadège Arnaud, présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Bonjour.
Bonjour.
Alors, présidente de département, il y en a une centaine de départements, donc ça veut dire qu'il y a moins de présidents et présidentes de département que de députés. Donc ça montre un rôle quand même assez important et c'est pour ça qu'on est là, pour essayer de découvrir un peu toute la facette de vos actions qui sont quand même globalement un petit peu méconnues par le grand public. Alors, on va revenir un petit peu sur votre vie personnelle. Vous êtes présidente depuis 2023, après avoir été conseillère départementale pendant une vingtaine d'années, hein, c'est ça? C'était un rêve de petite fille de finir présidente du département?
Pas du tout. C'est l'opportunité, c'est les hasards, du temps qui passe, pas du tout. Je n'étais pas destinée forcément à des fonctions électives au niveau départemental. Déjà en 2004, quand je me suis présentée, il y avait pléthore de candidats sur notre canton du Bouchardais. Et je m'étais dit, pourquoi ne pas offrir une autre possibilité d'élu qui pourrait proposer une vision peut-être un petit peu différente. Et c'est ainsi que je me suis lancée dans la course, mais pas pour être élu la première fois. Je pensais simplement pour me faire connaître et peut-être être élu lors d'une suivante élection. Et je me suis retrouvée élue dès 2004. Et donc, bien sûr, j'ai siégé comme conseillère départementale. Et puis ensuite, en 2015, je suis devenue vice-présidente pour, en 2021, devenir première vice-présidente en charge de domaines sociaux.
Donc, c'était donc tout naturellement vous qui
alors,
avez succédé
à Jean-Jacques Pommier ? Pas forcément, parce que n'importe lequel des élus de l'Assemblée départementale aurait pu postuler au poste de président. La particularité, c'était quand même de poursuivre un mandat qui était commencé depuis 2021. Donc ça veut dire un engagement que nous avions pris en 2021, que je devais poursuivre en 2023.
D'accord. Alors aujourd'hui, vous pourriez, je suppose, faire valoir vos droits à la retraite, mais vous continuez, parce que la vie d'une présidente de département, c'est une vie quand même qui doit être assez soutenue, intrépide. Vous avez aucune soirée, pas peu de soirées de dispo, je suppose. Qu'est-ce qui vous fait continuer?
Alors, je confirme que c'est des instants très toujours occupés. On n'a pas beaucoup de temps libre. Je crois que c'est la passion qui nous fait poursuivre ces fonctions. C'est pas par hasard, on ne peut pas le faire comme ça. Il faut vraiment être passionné, parce que le jour où on ne l'est plus, il faut arrêter. Et je l'ai toujours dit, quand je m'étais présentée en 2004, j'avais dit, je serai élue le temps que la passion sera là. Si un jour je suis désintéressée, ben j'arrêterai, parce qu'il n'y a pas d'intérêt après. Il ne faut pas que ce soit une mission forcée, il ne faut pas que ce soit quelque chose de contraignant. Il faut vraiment le prendre simplement et puis participer, à la fonction élective, aux affaires publiques, aux services publics. Et puis aussi, je crois que dans ces fonctions, il faut aimer les gens.
Parce que parfois, c'est la soif de pouvoir qui peut animer les élus.
Alors, je vais vous répondre très simplement. Ça n'a jamais été la soif de pouvoir, bien loin de là. Ça n'a jamais été mon moyen de vivre. J'ai toujours conservé mon métier à côté. Je suis en retraite professionnellement depuis 2017. Alors, je vous avoue que quand on est en retraite, c'est plus facile de satisfaire une fonction telle que celle-ci. Mais auparavant, j'ai continué à travailler avec la fonction élective.
Wow, une surfemme, quoi, quasiment.
Pas du tout. Non. C'est pas quelqu'un d'exceptionnel. Je pense qu'il y a beaucoup d'élus dans ma situation et beaucoup d'élus aussi qui souhaitent conserver un ancrage professionnel pour ne pas être dépendant de la fonction publique. Parce que je pense que c'est pas du tout les mêmes objectifs, la même vision que de devoir compter sur sa fonction élective pour vivre. Il faut qu'on ait les moyens de vivre indépendamment et en toute liberté.
Alors, côté politique, vous vous revendiquez... Alors, j'ai pas bien compris si c'était sans étiquette ou divers droite.
Alors, c'est sans étiquette, mais quand on doit...
Mais élu par une majorité de droite.
Mais élu par une majorité de droite. Et si j'ai osé prétendre à la fonction de présidente du conseil départemental, c'est bien parce que j'étais soutenue par l'ensemble de mes collègues de la majorité départementale qui va du centre jusqu'au LR.
D'accord. Alors, on va parler un petit peu des différents moyens d'action du conseil départemental. On va commencer par parler budget, parce que finalement, parler d'action sans parler budget, c'est pas que ça sert à rien, mais on a besoin quand même d'argent pour faire avancer le monde, comme diraient certains. Parmi les collectivités territoriales, les départements sont celles qui souffrent le plus avec des budgets et recettes de plus en plus contraints, mais des dépenses qui s'allongent.
Alors c'est vrai, alors la particularité des départements, et tout à l'heure vous l'avez signalé, que nous n'étions qu'une centaine de départements, donc pour se faire entendre, c'est parfois compliqué. Quand on est maire d'une commune ou président d'une intercommunalité, c'est un tout petit peu plus facile parce qu'on est plus nombreux quand on est élu du bloc communal ou intercommunal. Les départements, effectivement, c'est une centaine de personnes, une centaine de voix, et parfois on a du mal à se faire entendre. Et souvent, moi, je prône pour que plutôt l'ensemble des élus s'associent pour pouvoir porter les informations auprès du gouvernement.
Il n'y a pas d'association des présidents et présidentes ?
Ah si. Si. Alors, il y a une association des départements de France qui est présidée par M. Sauvadet. Je participe fréquemment aux réunions de ces instances et aux réunions en visio maintenant, ce qui facilite un petit peu la participation. Mais je suis de très près l'Association des départements de France, qui est quand même d'un grand soutien.
Parce que finalement, aujourd'hui, le gouvernement, on va dire, de centre et droite, est le premier à avoir envie, à avoir des velléités de encore sabrer dans le budget des départements.
Alors c'est un petit peu plus compliqué, mais effectivement c'est le résultat que l'on peut déceler. La difficulté des départements, c'est d'avoir perdu toute capacité à fixer ses recettes. C'est-à-dire que précédemment, nous avions une partie de la fiscalité directe, qui était les taxes foncières. Avec la disparition de la taxe d'habitation au profit des communes et intercommunalités, il s'est trouvé que le gouvernement a complètement fait évoluer la fiscalité en répartissant à nouveau les taxes foncières, en versant des compensations aux collectivités. Mais c'est ainsi que le département s'est trouvé dépouillé de sa fiscalité directe. En contrepartie, l'État a bien sûr compensé par une partie de TVA et puis par une dotation. Ces compensations, elles sont un petit peu gelées. Et c'est-à-dire qu'elle n'évolue pas alors que la fiscalité, on pouvait la faire évoluer.
C'est le drame de la décentralisation à la française où la première année, le budget gouvernemental, c'est à l'euro près,
oui,
mais finalement...
Mais après, ça n'évolue plus.
Ça n'évolue plus, voilà. En tout cas plus assez.
Et pour nous, c'est dramatique parce que nous n'avons pas la maîtrise donc, de nos recettes. Elles ne dépendent que des dotations que l'État veut bien nous verser. Et puis quand on a une recette qui pourrait être un petit peu dynamique, comme je pense une part de TVA, eh bien l'État se la réserve. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Et puis... Il y a une autre donnée aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que nos dépenses sociales, nous n'en sommes pas maîtres. Ce n'est pas nous qui fixons les montants des allocations que nous devons verser. Et donc, en fonction de l'évolution sociétale, nous avons un nombre croissant, par exemple, de personnes demandeurs d'emploi. Nous avons des personnes, une population vieillissante qui peut être plus demandeur de l'allocation personnalisée autonomie. Nous avons aussi le handicap qui souffre d'augmentation, ce qui est normal, mais en tout état de cause, le département n'a pas plus de ressources pour faire face à toutes ces dépenses qui s'imposent à lui. Et c'est ça le drame des départements, c'est de ne pas être maître ni de ses dépenses, ni de ses recettes.
D'accord. Dans le cadre de la baisse du budget de l'État, certains remettent en cause le nombre de collectivités territoriales, notamment certains voudraient faire sauter l'échelon départemental.
Alors écoutez, moi je suis présidente du conseil départemental, donc je ne vais pas vous dire il faut supprimer cette strate. Je pense qu'il faut faire une analyse précise. Il faut voir aujourd'hui quels sont les échelons qui sont utiles, les échelons qui le sont moins. Je n'aurai pas d'avis, simplement. Je dirais que le département, c'est un échelon encore de proximité. C'est-à-dire que la population connaît ses élus. Elle sait qui est conseiller départemental de son canton. Elle sait qu'elle peut le solliciter à tout moment. Il y a vraiment une proximité intéressante. Et pour le service public, nous tenons à maintenir des points d'ancrage et un maillage sur tout le territoire. C'est-à-dire que dans le domaine social, nous avons 22 maisons départementales de la solidarité. Pour ce qui est des infrastructures routières, œuvres d'art, ouvrages d'art, eh bien, nous avons aussi nos STA qui maillent le territoire départemental. Et puis, évidemment, la société évolue. Nous avons sur ce département des problèmes de mobilité pour ce qui est des franges périphériques de notre département. Et je pense à la frange Grand Nord et la frange Grand Sud, où les mobilités ne sont pas aisées et où là, nous devons nous réfléchir comment nous allons vers les gens. Parce que nous le savons, le gouvernement nous a demandé du aller vers, il faut proposer, il faut soutenir, aller vers les plus fragiles. Et comment fait-on? Alors, nous avons, nous, encore des assistantes sociales qui vont à domicile, qui n'est pas facile parce que la sécurité est parfois très fragile et on ne doit pas non plus nous exposer nos agents. Mais voilà, on réfléchit et du coup, nous avons, depuis le mois de décembre, un mobibus, c'est-à-dire que c'est un véhicule qui va dans les campagnes, qui va aussi dans des quartiers sensibles des villes, où parfois c'est pas le désert des services, mais en tout état de cause, où les gens ne viennent pas dans les structures. Et donc c'est à nous d'aller vers ces personnes et de leur proposer eh bien, les services qu'ils sont en capacité de demander.
Vous la sentez bien, vous, cette dualité qu'il y a qui se développe aujourd'hui en France entre les villes et la campagne, avec de façons de vivre et de façons de réagir aux mêmes événements qui est différente?
Alors, moi, j'ai plutôt tendance à vouloir atténuer ces différences, ruralité de la zone urbaine. Évidemment, nous avons, nous, en Indre-et-Loire, une particularité. Nous n'avons pas qu'une métropole forte, nous avons un axe ligérien fort. C'est la particularité de notre département, cet axe ligérien qui va d'est en ouest et donc cette métropole qui comprend 22 villes et communes qui sont puissants. Mais pour autant, on essaie de conserver, et ça je suis en étroite relation avec le président de la métropole, pour qu'on conserve vraiment ce lien entre la ruralité et le monde urbain, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de scission, il faut vraiment qu'il y ait une complémentarité, il faut travailler à cette complémentarité. Parce que nous avons aussi, pour certains territoires, la perte d'emploi des populations qui vieillissent, et donc des territoires qui pourraient se fragiliser du fait de ce manque de travail, de renouvellement de population. Et pour tous les services publics qui existent, tels que les écoles, etc., on doit se réinterroger aujourd'hui et comment la métropole et la ruralité peuvent embarquer l'ensemble du département. C'est quelque chose d'important parce que je ne peux pas imaginer que le territoire départemental soit en partie en puissance et le reste en désertification. Il faut vraiment être attentif à cela et on est obligé d'y penser parce que nous savons que dans le domaine de l'enseignement, nous avons des baisses de population d'élèves très conséquentes et qu'il faut réfléchir à l'école de demain. Comment devons-nous l'organiser? Comment répondre aux besoins localement?
L'année prochaine, 2027, c'est les élections présidentielles françaises. La probabilité est non négligeable que ce soit l'extrême droite qui arrive. Ça change quelque chose? Quels sont les liens entre une présidente de département et l'État et les directions vers lesquelles va l'État?
Écoutez, nous, nos chemins pour le département sont fixés. Ce que nous souhaitons, nous, c'est répondre aux besoins sociaux. c'est être au plus près des personnes vulnérables, de celles qui en ont le plus besoin. Alors, on parle souvent de solidarité sociale, mais pour moi, il y en a trois solidarités. Il y a la solidarité sociale, il y a la solidarité territoriale que nous devons entretenir avec les communes et les communautés de communes, parce que pour cela, nous avons deux fonds départementaux pour venir en aide et en soutien aux collectivités qui souhaitent entreprendre des petits ou des travaux plus importants, mais le département entend rester l'interlocuteur privilégié de toutes ces petites collectivités qui ne pourraient pas porter probablement certains projets s'il n'y avait pas cet effet levier du département par l'apport d'une aide. Donc c'est cette deuxième solidarité que nous souhaitons entretenir. Et puis je dirais une solidarité qui n'est pas négligeable et qui aujourd'hui a toute son importance, c'est la solidarité envers le monde associatif, envers les bénévoles, envers les partenaires qui souvent nous aident à répondre aux besoins des populations les plus fragiles. Et puis tous ces bénévoles aussi qui animent le territoire. Nous savons que s'il n'y avait pas ces associations culturelles, ces associations qui mettent en mouvement nos campagnes, nos villes, eh bien, la Touraine ne serait pas ce qu'elle est.
Justement, le monde associatif se plaint régulièrement d'une baisse lente et régulière des subventions des départements. C'est aussi le cas, je suppose, en Indre-et-Loire.
Alors, je ne dirais pas ça comme ça. Si on a pu constater par rapport d'un budget à un autre, c'est que nous avons depuis 2023 entrepris l'optimisation de nos dépenses et de nos recettes. Je m'explique. Ça veut dire que à un juste besoin, nous avons une juste dépense. Parce qu'auparavant, parfois on faisait une estimation, voilà, un petit peu trop favorable, et ça donc monopolisait des crédits qui pourraient être utilisés pour une autre action ou un autre projet. Et donc, c'est vraiment cette précision que j'ai demandé à tous les services, vraiment de prévoir la bonne dépense pour le bon besoin et dans les recettes, la même chose. Et donc, depuis 2023, effectivement, on peut constater d'une ligne à l'autre, d'une année sur l'autre du budget, une baisse. Mais c'est parce que la somme n'était pas consommée. Elle n'était pas utilisée. Alors, en général, depuis 2023, nous n'avons pas baissé nos aides aux associations culturelles, sportives et qui animent le territoire.
Il y a aussi une tendance de fond de remplacer des subventions par des appels d'offres. Alors, pas tellement dans le domaine culturel, mais plus dans le domaine de la solidarité. Est-ce que c'est vraiment une voie qui vous semble intéressante ou c'est la loi qui l'impose ?
Alors, c'est imposé, hein. C'est au niveau national où on nous impose de travailler le plus par appel à projet. Et l'État lui-même le pratique très couramment. Et pour cela, il nous met parfois bien en difficulté avec l'ensemble de ces appels à projets, avec ces contractualisations qui parfois ne sont pas suivies. Nous avons fait, nous, les frais d'une contractualisation pour l'enfance en 2022 qui devait être conclue pour 3 ans. Ça veut dire qu'on met en place, en accord avec l'État, des dispositifs. Par exemple, c'était pour nous la protection, la prévention et la protection de l'enfance. Et au bout de 18 mois, on nous a dit ben non. On arrêtera le contrat à la fin de cette année, c'est-à-dire au bout des 2 ans. Mais nous avions contractualisé avec des personnels jusque fin 2024 et nous avons dû arrêter les contrats en cours parce que l'État ne nous aidait plus sur les dispositifs qu'il nous avait demandé de mettre en place.
D'accord. Donc vous êtes consciente que cette façon d'agir par appel à projet est quelque chose qui fragilise parfois les associations et précarise aussi les salariés.
Alors, ça, effectivement, s'il y a un abus, ça peut être ça. Mais aussi, il faut voir le côté positif des appels à projets. Ça peut parfois susciter des propositions que nous n'avions pas imaginées. Parce que quand on écrit un cahier des charges pour mettre en place tel ou tel dispositif, il y a des données, effectivement. Et puis, tout à chacun peut répondre. Et dans les propositions qui nous sont faites, parfois, on a des bonnes découvertes. Des bonnes propositions. Et ces appels à projets, effectivement, sont conclus parfois pour 3, 5 ans ou plus, mais renouvelables. Moi, je pense que quand ça n'est pas abusif, l'appel à projet peut être une bonne réponse et avec de bonnes propositions.
Le budget participatif, le département s'est aussi lancé là-dedans, avec succès ?
Oui. Oui, effectivement, là, nous le relançons. c'est la pleine période. Nous relançons donc ce budget participatif. Donc on a modifié un petit peu, pas la règle, mais simplement le public. Parce que précédemment, nous avions deux branches dans le budget participatif. Nous en avions une pour les moins de 18 ans, pour les jeunes, et nous avions celui pour les adultes. Et il se trouve que nous n'avons conservé que ceux pour les mineurs, enfin les moins de 18 ans, pour les jeunes, parce que nous pensons que ces porteurs, ils ont des idées, ils ont...
Ça a permis de faire des économies ou c'est l'ensemble du...
Ah non, ça ne fait pas...
C'est eux qui récupèrent...
Voilà. Alors après, il y a une enveloppe qui est dédiée. Elle était, on n'est jamais arrivé au summum de l'enveloppe. Et là, effectivement, on a optimisé et on essaie de répondre le plus près possible du besoin. S'il faut à un moment donné augmenter l'enveloppe, on aura toujours la capacité à le faire. Mais on essaie toujours de coller plutôt aux besoins.
Pourquoi les jeunes ?
Alors les jeunes, parce que souvent ils ont de bonnes idées et ils nous proposent des projets qui sont parfois innovants, osés, mais qui présentent un intérêt pour eux surtout. Et puis cette année, on va mettre en place, là ça y est, ça, on va le lancer, c'est le Conseil départemental des jeunes, parce que nous pensons qu'ils peuvent, d'abord c'est pour les familiariser, pour les initier à la vie citoyenne, et aussi parce qu'ils sont force de proposition et il ne faut pas passer à côté.
Alors on va parler justement des champs d'action du département, on va parler de la solidarité qui est... En premier, parce que c'est le budget dans le budget, hein, c'est 58% du budget du département.
67% du budget de fonctionnement.
Ah oui, parce qu'il mettait le budget de fonctionnement aussi avec.
C'est 630 millions d'euros pour le budget de fonctionnement global, et c'est un peu plus de 100 millions pour l'investissement.
Normalement, cette solidarité, elle est financée par l'État ?
Pas que, mais oui, effectivement, en grande partie. Mais il y a d'autres recettes qui aident à financer les dépenses sociales.
Du style ?
Alors, sur les d'autres ressources que nous percevons, hein, que l'État, mais ça peut être... Alors comme ça, ça me vient pas en tête, mais c'est vrai que c'est essentiellement des ressources de l'État par les dotations et puis par les fractions dont je vous parlais tout à l'heure, TVA, voilà.
Il y a aussi le RSA dans cette partie-là, qui est une part importante, je suppose.
Très importante du budget, oui. Vous savez, dans les allocations individuelles, c'est environ 100 millions d'euros pour l'APA, pour le RSA et pour la PCH.
Chacun ?
Voilà, oui, à peu près. Oui, on a plus de deux. En tout, les dépenses sociales, c'est plus de 400, presque 450 millions d'euros, hein, 67%, je vous disais. Nous avons les allocations individuelles qui représentent une part très importante. Et ça, c'est vraiment le volet qu'on ne maîtrise pas, parce que c'est en fonction du nombre de demandes, c'est en fonction de l'évolution de la société. Chez nous, on va connaître un vieillissement. On connaît aujourd'hui un taux de chômage qui est remonté, donc ça veut dire des personnes... avec moins de ressources, qui vont avoir plus recours aux aides, qui vont avoir recours peut-être à l'inscription pour l'allocation RSA. C'est ces évolutions sociétales qui font que ça peut jouer sur notre budget.
Certains font un focus sur les faux RSA, la traque aux faux RSA. Vous êtes une adepte de cette chasse-là ou
Non, pas du tout. Alors, adepte, moi, je suis adepte que les bonnes personnes perçoivent les bonnes allocations. Je ne suis pas pour qu'on fraude dans ce domaine. Je trouve que c'est trop important et que nous n'avons pas suffisamment de ressources pour se le permettre. Alors, je ne fais pas une chasse assidue, mais en tout cas, je souhaite qu'on fasse respecter les droits de chacun. Et aujourd'hui, je pense que ce sont les plus fragiles qui ont besoin d'être soutenus et que ce sont ces personnes-là qui doivent percevoir les bonnes allocations.
Parce qu'il y a aussi le problème des gens qui pourraient bénéficier du RSA et qui, en fait, ne font pas appel à cette...
Alors ça aussi, nous le savons, il y a des personnes qui sont réticentes à demander à bénéficier du RSA, nous le savons. Mais au niveau national, il est envisagé des démarches qui seront plus faciles pour les usagers. Pour l'instant, c'est en cours d'élaboration, mais effectivement, il y a des personnes qui ne font pas valoir leurs droits, en quelque sorte.
On parle de 30% de personnes qui ne...
Alors, c'est ce qui a été répertorié, effectivement, presque un tiers ne demanderait pas ses droits.
Heureusement pour le budget du département.
Alors, heureusement, mais en même temps, vous comprendrez que la fraude... Il n'est pas normal que des personnes perçoivent des allocations alors qu'elles n'y ont pas droit et que d'autres n'en bénéficient pas.
La MDPH fêtera ses 30 ans ?
C'est 20 ans, oui. La MDPH a été créée en 2005 et donc nous allons fêter le 30 mai prochain les 20 ans de la MDPH.
C'est un gros événement, ça ? Enfin, je veux dire, c'est une action phare de pouvoir maintenir cette MDPH ?
Bien sûr, ça concerne...
Et tous ces satellites qui sont dans le département ?
Oui, ça concerne vraiment... alors là, on peut dire qu'au niveau de la MDPH, nous avons aussi des partenaires. Hein. Vous avez aussi l'éducation nationale. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs pour la MDPH et pour les personnes en situation de handicap. Et oui, c'est important. C'est important que ça puisse se poursuivre et que ça se développe hein, depuis la création. Beaucoup d'évolutions dans l'attribution du soutien, dans la prise en compte du handicap, dans l'école inclusive par exemple, dans l'habitat inclusif. Enfin, il y a eu beaucoup d'avancées.
Toujours dans le domaine de la solidarité, vous avez réduit dernièrement le programme de distribution de repas gratuits destinés aux personnes vulnérables. Est-ce bien la juste dépense pour le juste besoin, comme vous dites ?
Alors là, je vais rectifier un tout petit peu ce que vous venez de dire, parce que ça n'est pas le département qui a souhaité réduire le nombre de repas servis le soir aux personnes qui pouvaient en bénéficier. Ça n'est pas du tout ça. Et vous le savez que dans ce domaine-là, nous ne sommes pas les seuls intervenants. Il y a bien sûr les services de l'État, il y a aussi les partenaires que sont les associations. Et du coup, il y avait eu des discussions en début d'année qui nous faisaient penser que le financement de cette distribution des repas du soir était ficelé. Alors, il semble que ce ne soit pas tout à fait le cas aujourd'hui, mais je sais que la semaine prochaine, il y a une réunion à ce sujet avec l'association qui sert ces repas, les services de l'État, pour effectivement soit confirmer le financement qui a été pressenti ou pas. Alors, il faut dire que le département, quand il s'est engagé dans ce dispositif, avait signifié qu'il aiderait au démarrage. Donc, normalement, c'était une subvention exceptionnelle. Mais vous pensez bien que si le bouclage du budget n'est pas confirmé, le département ne se désengagera pas comme ça.
D'accord. Autre chose, dans le cadre de ces réductions départementales, vous avez aussi réduit la contribution du département pour les expériences territoire zéro chômeur longue durée. Alors, au Sanitas et à Bléré.
Vraiment, ce sont de fausses informations. Alors,
des fake news.
Écoutez, ce sont des interprétations, mais ça mérite quand même d'être précisé. Le département, jusqu'à maintenant, a toujours soutenu les territoires zéro chômeur de longue durée. Et là, il se trouve qu'au niveau national, et on est en train de se dire que peut-être ce dispositif pourrait être vu au 30 juin. Parce que, semble-t-il, la contribution des départements est beaucoup plus élevée que celle qui était pressentie. Je vais m'expliquer parce que là aussi, il y a des choses qu'il faut savoir, que le public doit savoir. Quand ces territoires zéro chômeur, la loi a été donc promulguée, les départements ne devaient participer qu'à hauteur des allocations qui auraient dû être versées aux personnes qui n'avaient plus besoin de les percevoir parce qu'elles étaient dans cette nouvelle structure et dans cette entreprise à but d'emploi. Et donc le département devait contribuer à hauteur des allocations qui ne seraient pas versées aux personnes parce qu'elles seraient rémunérées d'une autre façon. Et puis, d'un seul coup, ça c'était au printemps et au mois de septembre, il y a eu une révision de la réglementation en disant « Ah ben non, finalement, c'est la contribution des départements, elle sera de, alors je ne saurais plus vous dire le pourcentage, mais par exemple, de 20% du temps des agents recrutés pour conduire ces territoires zéro chômeur. » Ce qui changeait tout pour nous, hein. La dépense était bien supérieure et je crois qu'aujourd'hui elle est de 16%. Et si nous ne devions verser que les allocations à verser aux personnes bénéficiant de ce dispositif, nous ne serions qu'à 8%. Alors, normalement, l'État est en train de réfléchir pour ramener la participation des départements à ces 8% à partir du 1er juillet. Bon, ça, c'était l'information que nous avions quand nous avons préparé nos budgets. Et vous savez que nos budgets, on les prépare à partir du mois de novembre. Enfin, je dois vous dire qu'aujourd'hui, on les prépare tout le temps. On est toujours sur les budgets. Mais en tout état de cause, on scelle un peu les décisions à partir du mois de novembre jusqu'au mois de février. Nous avions ces informations qu'il y avait des discussions, que peut-être à partir du 1er juillet, ce serait 8%. Donc dans l'inscription au budget, la démarche a été de dire, bah, écoutez, nous 8%, ça nous correspondrait plus, parce que d'abord ça correspondrait à ce qui avait été annoncé au départ, et on s'est dit, peut-être que pour inciter l'État à aller dans ce sens, eh bien sur notre budget, nous allons bien inscrire les 16% jusqu'au 30 juin, et puis au 1er juillet, on va mettre 8% jusqu'au 31 décembre. Ce qui montre bien qu'on ne veut pas se désolidariser de ce dispositif territoire zéro chômeur longue durée. Mais si jamais, alors j'espère que non, j'espère que l'État va maintenir cette décision de ramener la participation du département à 8%. Si jamais ça n'était pas le cas, le département, il a des budgets supplémentaires et des décisions modificatives où il mettra les crédits utiles si jamais ça devait être plus. Mais donc, c'est bien pour vous dire que le département n'a pas l'intention de se désengager de ce dispositif que nous trouvons performant pour ceux qui existent.
Merci, c'est noté. Le département aussi intervient dans l'aide à l'enfance.
Ah oui.
Et donc ça couvre quoi ça, parce que pour le commun des mortels, qu'est-ce que ça veut dire l'aide à l'enfance?
Alors l'aide à l'enfance, il y a deux volets. Il y a un volet prévention et il y a un volet protection. La prévention, c'est toutes les actions qui peuvent être mises en place pour préserver, je dirais... La bonne arrivée dans notre monde de ces enfants, c'est-à-dire qu'il y a des suivis des parents, il y a des suivis médicaux. Et donc, nous avons, nous, avec la PMI, effectivement, un suivi des enfants après leur naissance et aussi un accompagnement pour les parents, pour leur volet parental avec la CAF, bien sûr. Mais cette prévention, elle permet parfois qu'un enfant ne se retrouve pas en difficulté, pas bien pris en charge et qu'on doive, nous, après, prendre au titre de l'aide sociale à l'enfance et le placer dans des établissements ou dans des familles d'accueil. Donc la prévention est importante, sauf que ces dernières années, je pense que, pas cette tout à fait dernière, parce que nous, ça fait quelques années qu'on y travaille, là, depuis 2021, mais avant, on privilégiait plutôt la protection, c'est-à-dire plutôt la réparation, et aujourd'hui, on sait qu'on ne pourra plus y faire face si on continue comme ça, si on ne prévient pas ces difficultés. Donc, pour la protection de l'enfance, quand l'enfant nous est confié par le juge, parce qu'il juge que l'enfant est en danger dans sa famille ou que les parents ne sont pas en capacité de s'en occuper, eh bien l'enfant est confié au conseil départemental. Et c'est ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance. Et nous devons, prendre cet enfant en charge, soit chez des partenaires, soit dans des familles d'accueil. D'ailleurs, en ce moment, on est en train de faire une campagne de recrutement des familles d'accueil parce qu'il est reconnu au niveau national, mais comme dans tout et à notre niveau, que c'est la cellule familiale qui correspond le mieux aux besoins de l'enfant. Donc, mais nous avions dans l'accueil familial un vieillissement de cette population, donc avec moins de place, et nous avons relancé depuis 3 ans des campagnes actives pour pouvoir recruter à nouveau et permettre le placement de ces jeunes. Et donc la protection de l'enfant, c'est lui apporter la sécurité, c'est lui apporter les soins, alors que les soins incombent à l'État, mais que le service n'est pas toujours présent. Donc ça, c'est vraiment une grande inquiétude. Et nous devons aussi l'aider à devenir adulte le mieux possible. Alors, le département est très actif. Depuis 2023, moi, j'ai créé une vice-présidence à la prévention et à la protection de l'enfance. C'est Madame Jabot qui est la vice-présidente de ce domaine. Et nous avons conduit en 2025 une mission d'information et d'évaluation pour savoir où nous en étions dans la prise en compte des enfants et comment on pouvait mieux répondre. Donc de cette mission d'information et d'évaluation qui a été conduite d'avril à septembre 2025, il en est ressorti un rapport avec 55 préconisations. Alors des préconisations qui concernent aussi bien le niveau national, parce que tout à l'heure je vous parlais de la santé où l'État était un petit peu défaillant en ne proposant pas les services suffisants pour prendre en compte les difficultés santé des enfants. Et puis nous avons après un deuxième niveau de préconisation qui concerne l'organisation, c'est-à-dire comment on travaille, comment on prend en compte, comment on se parle. Beaucoup de structures ont été entendues, il y a eu des auditions et on a pu comme ça percevoir eh bien, ce qu'il fallait améliorer. Et donc, sur ces 55 préconisations, nous en avons déjà mis en œuvre. Et notamment, la dernière, c'est une convention que nous avons passée avec le Conseil des avocats pour assurer aux enfants à protéger eh bien, le soutien et l'accompagnement d'un avocat. C'est-à-dire que l'enfant n'aura pas un avocat à chaque fois qu'il en aura besoin, mais il aura bien un avocat attitré qui connaîtra son dossier et qui l'accompagnera tout au long de sa vie d'enfant placé.
On va se faire une pause musicale Terre du Son, hein, puisque le conseil départemental en est un grand partenaire, et on va s'écouter Jeanne Hadid, Au revoir.
Ce n'est qu'un au revoir, ce n'est pas la fin. Je ne mentirai pas, tout ne va pas bien. Mais ce n'est qu'un au revoir, au moins jusqu'à demain. Je ne te l'apprends pas, le contraire de tout. Thank you.
These are the times that try men's souls. In the course of our nation's history, the people of rallied bravely whenever the rights of man have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.
Voilà, c'était Jeanne Hadid. On retrouve toujours dans l'émission Déo et Débat, on retrouve Nadège Arnaud, présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Il y a aussi la problématique des mineurs non accompagnés. Ça fait partie de l'aide à l'enfance, ça, ou
ça fait partie de l'aide à l'enfance, les MNA. Mmh. Voilà, c'est. Nous avons connu, nous, des flux, je dirais, gigantesques dans les années 2016-2018, où nous avions près de 2000 arrivants MNA à l'époque. Et aujourd'hui, les flux ont bien baissé depuis quelques années. Et nous sommes aujourd'hui plutôt environ 300-400 jeunes qui arrivent dans notre département.
Mais il y a toujours des jeunes ou des familles d'ailleurs qui dorment dans la rue.
Alors, qui sont accueillis par des associations.
Mais qui n'ont pas toujours les moyens de pouvoir faire face à, oui, alors, à la demande.
Alors, je connais, hein, j'ai essayé de travailler avec l'une de ces associations dans les années où nous avions des flux très conséquents. Voilà, parfois, il y a des jeunes que nous ne voyons pas, qui ne viennent pas au Champ Giraud pour se présenter pour diverses raisons. Alors, il y a aussi là une réglementation qui a évolué, c'est-à-dire qu'un jeune qui arrive, qui a déjà été évalué dans un autre département, nous n'avons plus l'obligation de le réévaluer, c'est-à-dire qu'on suit l'avis qui a été donné par un autre département, et souvent, les associations nous le reprochent. Alors, ce que je peux dire pour ce département, je ne sais pas si c'est une satisfaction, en tout état de cause, quels que soient les flux, nous avons toujours accueilli les jeunes et évalué de la même façon. On a toujours pris son temps, on a toujours fait appel à des interprètes. On a tout mis en œuvre pour que l'évaluation se fasse le plus juste possible. Et nous avons créé en 2019 un centre de mise à l'abri qui se trouve à Sorigny, qui nous permet, dès que le jeune se présente au Champ Giraud, eh bien, d'être pris en compte et dirigé avant son évaluation, parce que l'évaluation elle ne peut pas être faite sur le champ, il faut un certain temps. Eh bien, ces jeunes sont pris en charge par nos services à Sorigny, dans un bâtiment qui est conçu pour la mise à l'abri des...
L'évaluation, c'est vérifier qu'il est bien mineur, c'est ça ?
C'est ça. Alors, quand un jeune arrive et que l'on sait qu'il est mineur, il est pris en charge sans difficulté, aussitôt. Mais si la personne n'a jamais été évaluée, on doit le prendre en charge parce que s'il se présente à nous, c'est qu'il se dit mineur. Mais après vérification, parfois, souvent d'ailleurs, il se trouve que la personne n'est plus mineure. Et c'est à nous de vérifier selon les papiers, selon l'entretien qui sera fait, eh bien, d'évaluer si cette personne est vraiment mineure ou pas.
J'ai vu que des voix s'élevaient concernant le refus du département de considérer la présomption de minorité de certains jeunes migrants.
Alors, je ne sais pas si c'est vérifié ou pas. Pour moi, c'est non, parce que nous sommes très attentifs. Et quand nous avons des recours, je dois dire que récemment, nous les gagnons régulièrement. Donc, sincèrement, c'est un travail qui est fait le plus précisément possible pour ne pas mettre en difficulté les enfants qui sont vraiment mineurs.
Parlons de culture un petit peu. Alors, la culture, c'est pas la prérogative principale du département,
hein ? Non, mais le département en tient compte. Parce qu'il considère que le sport, que la culture sont des actions, des animations qui sont indispensables à la vie en société et au maintien du lien social et à l'élévation des personnes aussi. Et puis, quand ce sont des temps difficiles, des moments d'évasion.
Et le département soutient un certain nombre de grands festivals, enfin plus ou moins grands d'ailleurs, hein, suivant.
C'est vrai.
Mais sur tout le département.
Oui.
Et les aides, alors financièrement et en matériel aussi parfois.
Alors, tout à fait. Nous avons le département et le partenaire de Terre du Son, hein, qui est un festival conséquent et qui se déroule sur les terres du département, puisque c'est au domaine de Candé. Et effectivement, là, l'aide du département n'est pas que financière, elle est aussi, je dirais, tout ce, sur le point de vue technique et de mise à disposition des lieux.
Alors par contre, j'ai vu passer un appel d'offres concernant un festival à Candé, un festival estival. Ça veut dire que vous remettez en cause le partenariat avec
l'Asso? Alors on ne met pas en cause, c'est une pratique qui se fait depuis, je crois que c'est la troisième fois qu'on lance cet appel. Et jusqu'à maintenant, effectivement, c'est Terre du Son qui remporte l'appel à projet, mais c'est une obligation.
D'accord, voilà. C'est à cause du montant de la... Pourquoi ça ne peut pas se régler par des subventions, ça?
Je pense que c'est quand même très encadré, on ne peut pas faire n'importe quoi, et donc juridiquement, il faut des documents...
Donc il serait envisageable que l'association qui gère le festival soit dépossédée...
Ça pourrait.
Et vous pourriez reprendre le nom Terre du Son, il ne leur appartient pas?
Ah ben, je pense que là, ce serait un tout petit peu plus compliqué, mais on n'est pas dans cette posture-là.
D'accord. Donc, c'est plutôt pour des questions d'obligation formelle.
C'est ça, réglementaire, oui.
D'accord, très bien. Depuis que vous êtes présidente du département, dites-nous un petit peu de quoi, pour conclure, de quoi vous êtes fière, quelle action vous avez portée qui vous semble importante à communiquer.
Alors... Il est particulier ce mandat, et particulier depuis 2023. Particulier dans ce sens où nous avons perdu 35,5 millions de recettes entre 2023 et 2024. Donc quand vous avez un budget qui est sincère, comme il doit l'être, eh bien les marges sont faibles. Et donc de perdre 35,5 millions d'euros et avoir des dépenses en hausse, eh bien, je dirais que là, l'enjeu, c'est de maintenir le bateau à flot. Et je vous avoue que ce n'est pas une mince tâche. Alors, peut-être que ça ne se voit pas, le public ne le voit pas, mais le département, par ses décisions, par ses actions, par ses dispositifs, pour l'instant, arrive à maintenir le bateau, c'est-à-dire qu'il arrive à conserver cette proximité, à aider les personnes qui en ont le plus besoin, à conserver ces solidarités, comme je vous le disais tout à l'heure, que ce soit social, associatif ou territorial, le département conserve toutes ces actions. Et je dois dire qu'aujourd'hui, ma satisfaction, c'est de ne pas faire de coupe franche dans tous les dispositifs que nous pouvons avoir, tant pour nos compétences obligatoires, hein, telles que le social, mais aussi pour les autres compétences que nous devons porter. Et c'est vraiment c'est de pouvoir tenir ce bateau à flot en maintenant les dispositifs que nous pensons utiles aux uns et aux autres. C'est tenir cette place de partenaire privilégié avec les collectivités. C'est de maintenir un taux élevé d'investissement pour nos collèges. C'est le premier budget d'investissement. C'est aussi parce que c'est un mode de travail différent. Nous avons un plan pluriannuel d'investissement maintenant unifié, c'est-à-dire que ce ne sont pas les travaux d'un côté d'un bâtiment, c'est pas de nos monuments historiques, ce n'est pas de nos collèges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une vue d'ensemble de tout ce que le département doit faire pour entretenir à minima ses biens. Et donc, c'est tout ce travail qui a été fait pour qu'on puisse répondre le mieux possible. Nous savons que pour les routes, par exemple, il faut vraiment prioriser les travaux urgents. Pour les bâtiments, c'est la même chose. Alors, peut-être que notre satisfaction, c'est ça, c'est de bien pouvoir maintenir notre patrimoine en bon état. Ce qui est aussi important, c'est que le département est quand même propriétaire de 9 monuments historiques, que dans ces 9 monuments, il y a des animations, il y a des expositions, et c'est pas obligatoire, effectivement, mais le département est propriétaire de ces biens, et donc il se doit de les faire vivre et d'en faire profiter sa population, et c'est ce que nous essayons de faire par exemple au domaine de Candé avec des rassemblements de familles. On essaie d'avoir une offre qui réponde à tous les publics du département.
À propos de Candé, j'avais lu quelque part des gens qui disaient que le domaine allait être fermé plus souvent à cause de la chasse. Non, c'est encore des fake news?
Non, mais bon, c'est quand même surprenant ce qu'on peut faire comme affirmation. Non, pas du tout. Le Candé sera ouvert autant qu'auparavant. Et il sera même ouvert parfois, parce que précédemment, il était fermé du 1er novembre au début avril. Eh bien, cette année, il a été ouvert juste avant Noël. Il a été ouvert pour Noël magique. Et puis, nous avons, dès la réouverture, pour Pâques, nous avons fait une chasse aux œufs pour les enfants et les familles qui ont rencontré ces deux manifestations ont rencontré un très, très grand succès, quoi. Et donc, loin de nous, l'intention de fermer ce site qui est remarquable.
Et les autres sites patrimoniaux dont vous avez parlé là, c'est donc il y a Candé, il y a l'hôtel Gouin, je suppose.
Vous avez l'hôtel Gouin, vous avez l'hôtel consulaire qui a rejoint le patrimoine départemental depuis ces dernières années. Nous avons la forteresse de Chinon, nous avons le logis royal de Loches, nous avons le prieuré Saint-Côme, nous avons le château de Balzac à Saché, nous avons la Devinière à Seuilly. Et nous avons, le musée de la préhistoire au Grand Pressigny. Donc, et très sincèrement, tous ces sites sont animés. Il y a des animations. D'ailleurs, au Grand Pressigny, l'année dernière, nous avions la Touraine tropicale. Et nous avons, devant le succès, on a reconduit cette exposition et cette présentation jusqu'en septembre prochain.
Eh bien, merci Nadège Arnaud, présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire.
Merci à vous.
These are the times that try men's souls. In the course of our nation's history, the people of Boston have rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.